C'est lundi, il n'y a plus de rythme, même lui il galère. Salut Raphaël.
Salut à tous.
Histoire brève.
Oui, tout à fait.
On parle de quoi aujourd'hui ?
On va parler de la suite de ce qu'on avait commencé au mois d'août sur les morts insolites de l'histoire.
Ah ça, j'aime beaucoup. Il est bénévole et je rassure certains auditeurs, auditrices à propos d'une blague qu'on a faite un jour sur le fait qu'il voulait être payé pour faire sa chronique. Raphaël, est-ce que tu peux confirmer et enlever cette fake news ? Tu es bénévole.
J'en reparlerai tout à l'heure si vous me permettez.
Ah là 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 là. Raphaël !
Oui.
Je te réveille ?
Non, pas du tout.
T'es chaud ?
Oui.
Histoire brève, on y va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Histoire brève.
Bonjour monsieur de Paris.
Bonjour monsieur Coudert.
Vous êtes enfin décidé à me réinviter après plus de 3 mois de silence radio. J'imagine que cela signifie que la trésorerie de la station se porte mieux, n'est-ce pas ?
Voilà, voilà.
Car pour dire la vérité, je suis rémunéré ici sous la forme de prime par Radio Bartas. La prime qui me permet en fait de ne pas avoir de déclaration à faire au fisc. Nous avions ainsi statué à mon arrivée sur le fait que je toucherais 50 euros par blague, cette blague devant être validée par la suite en CA pour savoir si elle méritait la dite prime. Or, à l'aune du succès de cette chronique, je peux révéler au grand public que mon solde avec Radio Bartas depuis le début de notre collaboration, soit à peu près un an, s'élève actuellement à moins 10 euros, soit les frais de mes cotisations à l'association. Je crois que c'est un bon révélateur de l'intérêt que suscitent mes interventions bimensuelles chez vous, monsieur de Paris. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer de vous plaire, car tout le monde sait bien, monsieur de Paris, que c'est vous qui faites ici la pluie et le beau temps. J'en veux pour preuve le fait que Radio Bartas s'est investi tant d'argent pour acheter cette tapisserie collector mettant en scène les To Be Free pour refaire les murs de votre bureau. Et personne n'a rien dit, pas même Corto qui partage un petit coin de cette pièce à côté des poubelles et qui est plutôt Words Apart. Je vous croyais néanmoins plus curieux que ça, monsieur de Paris. J'ai la dernière fois fait de gros efforts pour présenter une chronique susceptible de vous intéresser, en évoquant avec vous les morts insolites des grands personnages de l'Antiquité.
Je m'en souviens, c'est dans la chronique
voilà,
d'ailleurs.
Échille, Chrysippe de Sol ou encore Hypatie d'Alexandrie. Et encore, je n'avais pas eu le temps de vous parler du grand écrivain et naturaliste romain, Pline l'Ancien, mort en 79 avant Jésus, après Jésus-Christ, pardon, pour s'être trop approché du Vésuve lors de son éruption afin de l'observer.
Ah, il est bon lui.
Mais vous voyez, lui était curieux. Il n'hésita pas à se brûler les ailes pour mieux comprendre le monde qui l'entourait. Quitte à prendre un simple bateau en bois et traverser la baie de Stabie pour mieux voir l'éruption du siècle de plus près. Enfin, un peu trop près en l'occurrence. Mais malheureusement, vous n'êtes pas si curieux, monsieur de Paris. Sinon, vous auriez voulu connaître d'autres exemples de ces hommes qui ont donné leur vie pour nous surprendre. Mais je ne vous en veux pas. Je pense que cette censure que je subis doit avoir un lien avec toutes les révélations que j'ai pu faire dans le passé sur votre vie trouble et dissolue.
Ah, ça, il y en a eu des révélations.
Oui, il y en a eu. Mais je crois que les gens ont le droit de savoir, monsieur de Paris. Qui se cache derrière cette voix qui anime les matinales des Valley Sevenol? C'est pourquoi j'ai décidé de poursuivre ma quête en continuant cette chronique sur les morts insolites et continuer à pouvoir faire briller vos soirées mondaines auxquelles vous participez de temps en temps en racontant des anecdotes touchant les morts insolites dans l'histoire. Tant pis pour ma prime. Pour aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le Moyen-Âge, où les morts incongrues sont aussi fort nombreuses. Et j'espère que cette fois, vous, monsieur de Paris, vous serez plus perspicace qu'au mois d'août, où vous aviez terminé notre petit exercice par un brillant 0 sur 3. Commençons donc par une star locale, Bertrand du Guesclin, connétable de France pendant la guerre de Cent Ans, qui est mort pas très loin d'ici en 1380. Connétable de France, ça veut dire qu'il était chef des armées. Il mène un siège durant l'été 1380 de Châteauneuf de Randon. Alors que la chaleur est extrême, il alla se restaurer, mais ses intestins ne le supportèrent pas. Pris de forte fièvre, il meurt brutalement le 13 juillet. D'après vous tous, de quoi est-il mort ? Qu'est-ce qu'il a pu ingérer ? Première proposition, de l'eau fraîche. Apparemment trop fraîche. De beaux champignons rouges vifs avec des petits points blancs, aussi beaux que bons. Du poisson frais, comme ceux d'ordre alphabétique.
Ordre alphabétique dans Astérix.
Dans Astérix, évidemment.
Il est pas frais, mon poisson. L'eau.
L'eau.
L'eau fraîche, moi, je dirais.
Tout le monde est d'accord avec l'eau? Oui, c'était bien l'eau. L'eau froide. Peut-être un peu croupie, qui provoqua chez lui un malaise. C'est ainsi que disparut l'un des plus grands guerriers de la guerre de Cent Ans, fauché par la mort, après tant de batailles, par un simple verre d'eau. Vous pouvez encore voir aujourd'hui un cénotaphe placé au bord de la route au niveau de la Bitarelle, juste avant d'arriver à Châteauneuf, pour rendre hommage à ce grand personnage de l'histoire. Pas de chance, n'est-ce pas ?
Pas de chance.
Eh bien, sachez que du Guesclin n'est pas un cas isolé. Puisqu'un roi de France connut le même sort, il s'agit de Louis X le Hutin, mort en 1315, qui lui aussi a bu de l'eau trop fraîche après une partie de jeu de pommes. Mais je suis d'ailleurs étonné que vous ne connaissiez pas ces illustres exemples, monsieur de Paris. Vous qui avez développé, après toutes ces années, une si grande méfiance à l'égard de l'eau, que vous ne tolérez que le matin, mélangé avec du pastis, afin que, je cite, hein, faire passer le goût.
Ouais, c'est ça. Je vais encore me faire une belle réputation. Toi.
Mais bon, assez parlé gastronomiste pour ce matin. Parlons maintenant peine de mort, puisque c'est dans l'actualité. Le Moyen-Âge est une période féconde, imaginative et expérimentale en termes de mise à mort. Voyez plutôt Bruno O, reine mérovingienne qui exerça le pouvoir à la place de ses fils et de son petit-fils pendant près de 33 ans et qui a mené toutes les intrigues sanglantes qui ont émaillé les rapports entre les grandes familles de la dynastie au début du 7e siècle après Jésus-Christ. À sa chute, alors qu'elle avait près de 66 ans, son rival Clotaire, qui n'est autre que le père du fameux roi Dagobert, la livre pendant 3 jours aux exactions de son armée. D'après vous, comment procède-t-il ensuite à sa mise à mort? Petit 1. À la Perse, il la badigeonne de miel et la livre à des colonies de fourmis. À la Disney, il la badigeonne de miel et la livre à un ours. À la Barbare, il lui attache les cheveux, un bras et une jambe à la queue d'un cheval sauvage.
Ah, j'aime bien la dernière.
La dernière.
Mais c'est peut-être mon côté sadique.
Ça me surprendrait quand même. Mon côté sadique.
Je prends la dernière.
Vous êtes pur comme de l'eau. Pareil?
Ouais, la barbare.
Oui, la barbare, tout à fait, la barbare. C'est un sans faute pour l'instant. On savait y faire à l'époque pour régler le problème de la retraite. Autre exemple, celui de Georges Plantagenet, le duc de Clarence qui est condamné à la peine capitale pendant la guerre des Deux Roses en Angleterre en 1478. Son frère, Édouard IV, qui régnait alors, lui offre de choisir comment ce dernier veut être mis à mort. Quelle mort choisit-il? 3 propositions. Décapité après un dernier orgasme.
à la menthe religieuse, genre.
Noyé dans une barrique de vin de malvoisie, pendu par de la saucisse.
Pendu par de la saucisse.
Oui.
Ça c'est tellement original que je dirais bien celle-là, moi.
Celle-là?
La saucisse, ouais.
Oui, pareil, saucisse.
Allez, décapité.
Décapité. C'était un petit peu la mode à l'époque, mais non, là, il a choisi de se faire noyer dans du vin, le barrique de vin de méditerranéen, dont il était extrêmement friand, a priori. Alors, on peut voir d'ailleurs cet épisode et toute cette histoire dans la série The White Queen, peut-être que vous l'avez vu, qui est sortie en 2013, et justement raconte cet épisode de la mort du duc de Clarence. Continuons notre tour d'horizon avec l'un des personnages les plus puissants de son temps qui mourut d'une façon, disons, insolite. Il s'agit de Frédéric Ier Barberousse, celui-là même qui prit part à la Grande Croisade des Rois en 1187 pour affronter Saladin et sauver Jérusalem. En 1188, lors de la traversée du fleuve Salef en Anatolie, il a commis une erreur qui lui fut fatale. Petit 1, il tomba d'une barque alors qu'il pêchait le brochet. Pas de chance, ça arrive. Petit 2, il n'a pas voulu enlever son armure et coula pendant la traversée. Là, on peut dire qu'il a un peu cherché. Petit 3, il but de l'eau trop fraîche, ce qui était très risqué à cette époque. Voilà, et il a vraiment provoqué la mort.
Ouais, j'aurais bien dit l'armure.
L'armure?
Ouais.
On est d'accord avec l'armure? C'est bien l'armure, tout à fait. Il a voulu traverser le fleuve sans quitter son armure. Les choses se sont remplies d'eau et vu que c'est un peu lourd, ben, il a coulé.
C'est pas très malin quand même.
C'est...
Ah, c'est militaire.
Terminons cet exercice matinal, non pas par une, mais 2 morts insolites qui touchèrent 2 rois de France au Moyen-Âge. De quoi sont morts ces rois Louis III en 882 et Charles VIII en 1498? Ils sont morts de la gastro après avoir mangé de la soupe. Ils se sont cognés au linteau de porte trop basse. En renfournant leur épée, ils se sont percés la cuisse.
Là, c'est le festival de la soupe. Dans 15 jours, du coup, on ne meurt pas de manger de la soupe.
En effet.
Le linteau.
Le linteau des portes trop basses. Ouais. Tout le monde est d'accord avec la soupe?
Allez.
Les linteaux. Ils se sont cognés à des linteaux de porte, en effet. Bon, l'un d'entre eux l'a un peu cherché, Louis III. Il n'avait que 18 ans, il était à cheval et courait après celle qu'il voulait mettre dans son lit. Sans qu'on sache vraiment si elle était consentante. Donc, a priori, elle se serait réfugiée chez son père. Et lui, en courant derrière, se serait pris le linteau de la porte trop basse. On peut dire qu'il l'a un peu cherché. C'est le karma. L'autre s'est cogné au château d'Amboise alors qu'il conduisait sa femme, qui venait de faire une fausse couche, à un match de jeu de pommes. Il a assisté à la partie pendant 2h30 avant de tomber dans les pommes. Pardon du jeu de mots. Et il est mort 9h après. Donc des choses qui arrivent. Attention au linteau de porte, on le dit jamais assez.
Tu m'étonnes. Ouais.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois lorsque vous daignerez m'inviter. Et on s'attardera donc sur les morts insolites de l'époque moderne, donc jusqu'au 18e siècle.
Je vais demander à Véro un petit point sur les comptes pour voir où on en est. Allez, je t'offrirai bien un petit verre d'eau.
Ouais.
Merci beaucoup, Raphaël. à très vite. Nous, clin d'œil à l'histoire, on se voit, c'est dans 15 jours maintenant, et je pense que là, on a décidé de faire le krach boursier, c'est ça?
Oui.
Le jeudi noir en 1929, ça va être génial. Merci beaucoup.